Voilà, que Dieu soit béni. Les enfants font partie de la vie de l'Église et nous nous réjouissons de la foi qui est dans leur cœur et que Seigneur continue à œuvrer encore afin que cette foi se développe. Voilà, on va ensemble ouvrir la parole de Dieu. Et nous allons dans l'Évangile selon Luc. Alors, Luc chapitre 1er. Et donc, au verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. » J'aimerais encore prier avec vous, si vous voulez. Ce matin, on va s'incliner pour que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui diriges toutes choses, tous ces moments, Seigneur, et nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, que encore il agisse dans nos cœurs, dans nos pensées, afin que ta parole puisse imprégner nos cœurs. Et Seigneur, vraiment afin qu'elle fasse son effet, afin que nous te ressemblions de plus en plus. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Si je devais donner un titre à ce message de ce matin, il serait issu du verset 30, où l'ange dit à Marie, « Ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Nous avons trouvé grâce devant Dieu. Non seulement cette femme, mais nous prendrons d'autres exemples, mais nous aussi, nous avons trouvé grâce devant Dieu. Et cela implique beaucoup de choses, cela a des conséquences extraordinaires dans toute notre vie. Rien que le mot « grâce », déjà, nous pourrions nous arrêter quant à sa signification et quant à toutes les implications que cela a dans notre vie. Cette grâce qui n'est basée sur aucun mérite humain, aucune œuvre humaine, cette grâce qui dépend seule de Dieu, qui fait grâce à qui il veut et qui fait miséricorde à qui il veut, qui est étroitement liée à sa souveraineté, à sa volonté. Dieu fait grâce. Il fait grâce, j'allais dire, même d'une manière générale à l'humanité, puisqu'il est dit que Dieu est bon et que dans sa bonté, il fait pleuvoir sur le méchant comme sur le juste, il fait lever son soleil sur le méchant comme sur le juste. Donc Dieu est bon et dans sa bonté, il déverse ses grâces. Mais à combien plus forte raison, sur ses enfants, il déverse ses grâces. Cette bonté, cette grâce de Dieu, donc, n'est basée sur aucun mérite humain. Mais quand nous sommes au bénéfice de sa grâce, il y a bien des choses qui changent dans notre vie. Quand nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Le fait de trouver grâce aux yeux de Dieu va apporter une approbation sur notre vie. N'est-il pas écrit, eh bien, dans Romains chapitre 8, verset 31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'est pas écrit si Dieu est avec nous, bien sûr que Dieu est avec nous. Mais l'apôtre Paul dira si Dieu est pour nous. Et Dieu est pour nous parce qu'il est en notre faveur. Et c'est étroitement lié à la grâce, puisque comme nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, nous sommes au bénéfice de sa faveur. Il y a donc une approbation, et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu, et cela veut dire aussi que nous sommes au bénéfice de la générosité de Dieu. Nous avons affaire à un Dieu qui est généreux et qui dispense ses bienfaits sur ses enfants d'une manière toute particulière. Ses bénédictions, ses grâces, sa générosité, son pardon aussi. Et il nous fait cette grâce extraordinaire de pouvoir nous tenir dans sa présence. Nous ne pourrions pas nous tenir dans sa présence si nous n'avions pas trouvé grâce à ses yeux. Mais nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il y a un bel exemple qui illustre bien ce fait-là. Dans l'Ancien Testament, c'est la reine d'Esther. Or, il y a un danger, il y a un péril sur son peuple. Et pour changer les choses, il faut qu'elle se présente devant le roi. Mais elle sait très bien que si quelqu'un se présente devant le roi sans qu'il ait été appelé à cela, il peut en mourir. Alors elle demande à ce que l'on prie pour elle. Il y a un jeûne et prière qui est organisé. Et au bout de quelques jours, Esther va se présenter devant le roi. Et lorsque le roi l'aperçoit, il est dit qu'elle trouva grâce à ses yeux. Et au lieu de la faire mourir, il la fait entrer dans sa présence et il lui demande quelle est sa requête. Quelle belle image aussi de ce que Dieu fait en notre faveur. Nous avons trouvé grâce et nous pouvons nous tenir dans sa présence et nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Mais pensons bien et réfléchissons bien que Dieu est tellement saint, que Dieu est tellement saint, que sans cette grâce, personne d'entre nous ne pourrait tenir dans sa présence et vivre. Ésaïe le dira bien. Lorsqu'il aura la vision de la sainteté de Dieu, « malheur à moi, dira-t-il, parce qu'il avait vu le Seigneur et qu'il se sentait si sale à cause de son péché. » Mais Dieu nous fait cette grâce, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est parce que Jésus-Christ est monté sur la croix que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous allons prendre quelques exemples et nous allons revenir sur le cas de Marie. Marie qui a trouvé grâce. Marie qui était une descendante du roi David. David a eu plusieurs enfants. Joseph était descendant du roi Saül, du roi David, excusez-moi, par Salomon, tandis que Marie était descendante du roi David par un autre fils que David a eu, et notamment Nathan. C'est en raison de cela qu'elle a été choisie, mais ce n'était pas la seule descendante, puisqu'il fallait que le Messie soit issu de David. Mais il y avait beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi descendantes du roi David, mais elle a trouvé grâce. Elle a trouvé grâce. Et puisqu'elle a trouvé grâce, l'ange lui dira ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Il y a beaucoup de sujets de crainte. Il y a des peurs. Il y a des angoisses. Il y a des choses dans la vie qui pourraient nous arriver et susciter de la crainte. Ici, c'est pas commun d'avoir la visite d'un ange qui nous parle. On peut comprendre que Marie ait eu quelques craintes à ce moment-là. Comme quoi, même une intervention de Dieu peut susciter de la crainte. Mais l'ange lui dira, ne crains point, car tu as trouvé grâce. Il y a toutes sortes d'origines de la crainte, toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver dans la vie, mais aussi, j'allais dire, une direction particulière que Dieu peut mettre dans notre cœur, dans notre vie, par rapport à son plan. Dieu nous a parlé, Dieu nous montre quelque chose qu'il attend de nous, mais cela suscite de la crainte. Mais si Dieu nous appelle, c'est que nous avons trouvé grâce devant lui. Alléluia. Alors ne crains point. Ne crains point parce que celui qui t'appelle est aussi celui qui pourvoira. Celui qui t'appelle est aussi celui qui a les moyens d'accomplir dans ta vie ce qu'il veut faire dans ta vie. Marie va connaître des difficultés. Elle va être obligée de fuir. Divinement avertie, ils vont partir en Égypte parce que le roi Hérode veut tuer cet enfant. Il fait d'ailleurs tuer tous les enfants mâles de moins de 2 ans. Elle est obligée de fuir. Puis après, elle revient, mais elle ne va pas revenir à Bethléem. Elle va partir à Nazareth parce qu'il y a encore un danger qui est là. Ne crains point. L'œuvre de Dieu suscite des difficultés, elle suscite des dangers même. On le voit de par le monde, certains risquent leur vie à cause de leur foi, mais ils ont trouvé grâce devant Dieu. Ne crains point. Alléluia. Alors, il y a ce que l'œuvre de Dieu peut produire dans notre cœur, et elle peut produire des craintes, mais nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et puis il y a toutes les autres craintes qui sont de la vie courante de tous les jours, des événements qui peuvent nous arriver, mais quoi qu'il puisse nous arriver, nous savons que nous pouvons être en paix parce que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Et Dieu ne laissera pas tomber ses enfants, il prend soin d'eux, il prend soin d'eux. J'aimerais aller maintenant dans l'Ancien Testament et nous allons prendre un autre exemple que nous allons trouver dans la Genèse au chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chose est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » On peut s'arrêter là, vous connaissez cette histoire de Noé. Une époque qui ressemble étrangement à la nôtre, et d'ailleurs, prophétiquement, il faut que ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi, hein, en ce temps-là, où la terre était remplie de violence. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour voir la violence un peu partout environnante. Rares sont les nations aujourd'hui où il n'y a pas de violence. Il y a peut-être quelques endroits encore épargnés ou préservés plus ou moins, mais d'une manière générale, on peut dire que aujourd'hui, comme du temps de Noé, la violence a rempli toute la terre. La violence a rempli toute la terre. Il est dit, eh bien, que, au verset 5, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà un petit peu ce qui se passait du temps de Noé, l'ambiance dans laquelle Noé vivait. Il y avait du danger, la terre était remplie de violence, il y avait une insécurité qui était là, il y avait de la corruption, il est parlé de corruption. Donc on voit que c'était malsain. Mais une famille fait la différence dans tout cela, c'est la famille de Noé. Noé marchait avec Dieu, il n'a pas commencé à marcher avec Dieu lorsque Dieu lui a dit de construire l'arche, mais déjà avant cela, Noé a marché avec Dieu. Et Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu s'est toujours réservé un reste. Et encore aujourd'hui, parce que la terre est remplie de violence, nous le voyons bien, il y a une corruption qui est là, le mal, le péché grandit, se développe abondamment. Mais la bonne nouvelle, c'est que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, et nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, au sein d'une génération, au sein d'une époque qui est remplie de violence, qui est remplie de péché, qui est remplie de corruption. Des choses abominables se passent. Il est parlé de Lot dans la parole de Dieu, il y a un autre contexte, mais là encore, il y avait des choses mauvaises qui se faisaient. Il nous est dit que Lot tourmentait son âme jour et nuit de ce qu'il voyait et entendait de ces gens qui étaient sans frein dans leur corruption. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, il fut épargné, lui et sa famille. Alors pour pouvoir être épargné, bien sûr, il avait aussi quelque chose à faire qu'il a fait dans la foi, puisque la parole de Dieu nous dit que c'est dans la foi que Noé a fait cette arche. On ne voyait pas un seul nuage à l'horizon. Comment pouvoir penser qu'il y allait avoir un déluge? Mais Noé a construit cette arche et il fut sauvé. Il a fait la différence à son époque. Et le peuple de Dieu, aujourd'hui, l'Église du Seigneur, qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, fait la différence. Et un jour, Jésus va venir chercher son peuple. Alléluia. Tous ceux qui ont trouvé grâce aux yeux du Seigneur seront pris, enlevés, avec le Seigneur dans les airs, sur les nuées. L'un sera pris, qui a trouvé grâce, l'autre ne sera pas pris. Ceux qui auront répondu à l'appel du Seigneur dans la foi seront enlevés. Nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Un troisième exemple que nous trouvons dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 33, verset 12. Exode 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Amen. » Quel passage extraordinaire par rapport au message de ce matin, de ce dialogue entre Moïse et l'Éternel, de cet échange qu'ils ont eue. Les prières de Moïse sont tout à fait extraordinaires. On voit que Moïse, tout comme Abraham en son temps, parlait à Dieu comme un homme parle avec son ami. On voit vraiment là cette liberté, cet échange qu'il y avait, cette communion, cette intimité qu'il pouvait y avoir entre Moïse et l'Éternel. Et il est dit ici que Moïse a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, mais pas seulement Moïse, mais il est parlé aussi du peuple d'Israël. Au verset 12, « Voici, tu me dis, tu me fais moi monter, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. » Et alors, même au verset 17, cela, la même pensée est rappelée. « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » On voit là vraiment que Moïse, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, il y a cette connaissance de Dieu particulière sur Moïse. « Je te connais par ton nom. » Le Seigneur nous connaît si parfaitement, il nous connaît individuellement, chacun d'entre nous. Nous avons trouvé grâce à ses yeux. Le verset 13 est tout à fait aussi remarquable. Et Moïse dit ceci, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. » Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire que Moïse dit dans son dialogue avec Dieu. Et il dira ceci, « Je trouverai encore. » Ah, j'aime bien ce petit mot-là, « encore ». Je trouverai grâce, je trouverai encore grâce à tes yeux. Moïse est dans cette foi, dans cette certitude, qu'en ce jour il a trouvé grâce et il fait cette prière, fais-moi connaître tes voies. Moïse est conscient qu'il a besoin de connaître les voies du Seigneur afin de mieux connaître le Seigneur. Alors je te connaîtrai. Et nous prenons aussi conscience que nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Un jour, il est venu nous chercher, il nous a sauvés, amen. Il nous a tirés de la boue du péché et il nous a mis sur son ferme rocher. Il nous a sauvés non pas parce que nous le méritions, mais parce qu'il nous aimait. Nous avons trouvé grâce. Mais il est certain qu'à partir de ce jour-là, un cheminement a commencé à se faire sur les voies du Seigneur. Et petit à petit, lorsque nous marchons sur ces voies du Seigneur qu'il nous fait connaître, il nous montre le chemin à suivre. Il nous montre quelle est la volonté pour notre vie. Cette volonté de ressembler au Seigneur Jésus. Fais-moi connaître tes voies. Et sur ce chemin que nous marchons avec le Seigneur, sur les voies du Seigneur, nous connaissons le Seigneur, nous apprenons à le connaître. Nous apprenons à le connaître et nous sommes là sur ce chemin de la connaissance du Seigneur et plus nous connaissons le Seigneur, plus notre foi s'affermit. Il y a cette phrase de Moïse, « Je trouverai encore grâce à tes yeux. » Moïse est conscient qu'il a besoin de persévérance lui aussi. Moïse est conscient qu'il a besoin encore de marcher dans les voies du Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux qui renient la foi pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui persévèrent jusqu'au bout. C'est cette foi-là qui honore le Seigneur et qui nous fait trouver grâce à ses yeux. Non pas que nous sommes meilleurs, mais nous savons que le juste, comme il est écrit, « Mon juste vivra par la foi ». Alléluia. Nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu, comme Marie, comme Noé en son temps, comme Moïse et d'autres. Il est parlé aussi que David a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mais c'est toute notre vie que nous voulons trouver grâce aux yeux du Seigneur. Alléluia. Moïse a trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais aussi le peuple. Il est parlé du peuple. Moi et ton peuple. Est-ce que le peuple d'Israël a trouvé grâce parce que c'était un peuple meilleur que les autres? Non. Est-ce que le peuple d'Israël a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce que c'était un peuple supérieur aux autres? Non. Quand on prend l'origine du peuple d'Israël, on voit même qu'Abraham, il vient d'Ur en Chaldée et nous savons que c'était un peuple idolâtre. Mais il l'a fait sortir de cela. Il l'a fait sortir de cela. Il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Merci Seigneur, parce que ton peuple, aujourd'hui encore, ton Église, a trouvé grâce, eh bien, à tes yeux, et nous sommes distingués. L'Église est et sera toujours à part de ce monde. L'Église ne se conforme pas au présent siècle mauvais, mais elle se conforme à la parole de Dieu. Elle se conforme à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église est appelée à ressembler à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il y a la présence du Saint-Esprit au milieu de nous, une présence effective. Nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et nous sommes distingués. Quand un homme, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Lorsque nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, même nos ennemis agissent à notre égard, en notre faveur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Parce que nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais prendre un autre exemple et nous allons dans le deuxième livre, deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Nous allons prendre l'exemple de Paul, l'apôtre Paul. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit. » Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ma grâce te suffit. Paul avait un problème et ce problème avait été permis par Dieu pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. L'apôtre Paul a eu des révélations tout à fait extraordinaires, révélations des mystères de Christ. L'apôtre Paul a eu un ministère d'une envergure extraordinaire aussi. Et pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil, il aurait pu se vanter de tout ce qu'il avait reçu. Et c'est par grâce qu'il l'avait reçu, il le dira lui-même ailleurs. Eh bien, il avait un problème, Paul. On ne sait pas exactement quelle est la nature de ce problème avec détail, mais ça devait être assez pesant pour Paul, puisqu'il a prié à plusieurs reprises pour que le Seigneur lui enlève cette écharpe dans la chair. Il dira qu'il a prié trois fois le Seigneur de l'éloigner de lui. On peut supposer que c'était un problème physique, un problème de maladie possible, puisqu'on sait que Paul avait des problèmes aux yeux. Était-ce un problème lié à la persécution? Fort probable aussi. puisque lorsque Paul a arrivé quelque part, ça ne tardait pas. 3 semaines, 1 mois après, il était obligé de partir en catastrophe. Et avait-il un problème à l'intérieur de lui-même, voilà, dans son caractère, peut-être aussi. En tout cas, on ne sait pas vraiment quel était le problème de l'apôtre Paul. Mais c'était quand même assez lourd, puisqu'il dit que c'était une écharde dans la chair, et il précise même un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. Donc, voilà, c'est pas rien. Un ange de Satan pour me souffleter. On peut comprendre que l'apôtre Paul ait prié avec persévérance pour que le Seigneur l'éloigne de lui. Et l'apôtre Paul aurait souhaité certainement que le Seigneur, dans sa grâce, lui enlève cette écharpe dans la chair. Comme ça peut nous arriver, nous avons aussi nous-mêmes nos échardes, ou une écharde. On peut en avoir plusieurs, hein. Mais au moins, on en a peut-être au moins une. Et nous nous présentons devant le Seigneur, et nous avons raison de prier pour cela. Et quand nous prions, nous nous attendons à ce que le Seigneur réponde favorablement à notre prière, tout en sachant que nous sommes au bénéfice de sa grâce. Sauf que la réponse que le Seigneur a adressée à Paul, c'est « ma grâce te suffit ». Ça veut dire beaucoup de choses, ça. Ça veut dire déjà, premièrement, qu'il va lui laisser cette écharpe dans la chair. Il va lui laisser cette écharpe dans la chair. L'apôtre Paul va continuer à vivre et à exercer son ministère avec cette écharpe. C'est comme si on avait une écharpe dans le pied, belle écharpe, et qu'on continuerait à marcher et toute notre vie avec cette écharpe. Comprenez que c'est difficile. Et dans toute sa vie chrétienne, l'apôtre Paul a eu cette écharpe que le Seigneur ne lui a pas enlevée. Ma grâce te suffit. L'apôtre Paul a dû apprendre à se contenter de la grâce de Dieu. C'est cette grâce-là qui nourrit notre âme. C'est cette grâce-là qui fortifie notre foi. Quoi qu'il nous arrive, ou quoi qu'il ne nous arrive pas d'ailleurs, qu'on aurait souhaité qu'il nous arrive, mais qu'il ne nous arrive pas, on se dit, mais je suis au bénéfice de la grâce du Seigneur, j'ai trouvé grâce à ses yeux. Donc, je sais que quoi qu'il arrive, le Seigneur va me bénir. Sauf que, dans ce que nous interprétons, nous, dans le mot bénédiction, dans le verbe bénir, on y met le bien-être physique, on y met le bien-être financier, l'abondance financière, peut-être. On y met une vie sans aucun ombrage, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'apôtre Paul a appris à avoir faim, il n'était pas dans l'abondance. Hein. Il a appris à être content dans l'état où il se trouve. Ma grâce te suffit. Nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nourrissons notre âme de cette grâce. Nourrissons notre foi de cette grâce. Quoi que je puisse vivre, quoi que je puisse, des moments difficiles, même si je tombe malade, même si je suis dans la difficulté, même si toutes sortes de catastrophes m'arrivent, je suis au bénéfice de la grâce de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul a eu des difficultés énormes. Il dira au verset 10 quelque chose qui nous paraît inouï. Parce qu'il a nourri son âme de cette grâce, il est capable de pouvoir dire « Je me plais. Je me plais dans les faiblesses. Dans les outrages. » On n'aime pas être outragé. Hein. Dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Sachant que ces faiblesses, sachant que ces outrages, sachant que ces calamités, ces persécutions, ces détresses, elles sont pour Christ. Il ne faut pas oublier ça. L'apôtre Paul dira « pour Christ ». Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et ça, c'est l'effet de la grâce du Seigneur. Parce que dans ces moments-là, on apprend vraiment à ne plus s'appuyer sur nous-mêmes, on apprend à ne plus s'appuyer sur notre savoir-faire, sur nos compétences, sur notre aisance financière ou sur autre chose. On n'a plus rien que le Seigneur. L'apôtre Paul a vécu difficilement sa solitude. Il en parle à Timothée. Tous m'ont abandonné. On sent que lorsque Paul écrit ça à Timothée, c'est lourd. Il se retrouve dans une prison, dans une cellule lugubre. Le froid, il n'y avait pas le chauffage dans les prisons à l'époque. Hein. Problème aussi de malnutrition. On peut s'imaginer les conditions des prisonniers dans l'Empire romain. L'apôtre Paul a connu parfois des temps d'emprisonnement, mais sous surveillance, c'est-à-dire il était dans une maison surveillée, mais à d'autres moments, il était dans un cachot. Et les cachots de l'époque, de l'Empire romain, c'était quand même difficile. On peut comprendre que l'apôtre Paul ait souffert de solitude. Tous m'ont abandonné. En plus, il a non seulement ses conditions de vie difficiles, mais en plus, il n'a plus le soutien de ses frères en la foi. Et là, à ce moment-là, il reste quoi ? La grâce. Il est encore à ce moment-là au bénéfice de la grâce du Seigneur. Et quand on n'a plus rien, la gloire de Dieu se manifeste. La grâce de Dieu est agissante. Ma grâce te suffit. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle situation vous pouvez passer en ce moment, mais sachez une chose, c'est que vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nourrissons notre âme de cette grâce afin que la crainte, tout comme Marie, ne nous envahisse pas. Ne nous envahisse pas. J'ai eu une période lorsque nous étions en Tunisie, difficultés les jours après les autres. À un moment donné, l'angoisse m'a saisi. Parce que peut-être une broutille qui peut nous arriver dans un endroit en sécurité, ça va, on arrive à gérer, mais dans d'autres circonstances, surtout quand ça s'accumule, et on a l'impression que même le Seigneur ne fait plus rien dans notre vie, n'agit plus comme il a agi jusqu'auparavant. Et dans ces moments-là, on peut perdre pied. Mais là, le Seigneur nous rappelle, Nathan, tu as trouvé grâce à mes yeux. Quoi qu'il arrive, je suis à tes côtés. Si je suis pour toi, qui sera contre toi ? Même si tu dois en mourir, tu es encore au bénéfice de ma grâce, puisque je t'accueille dans la gloire. Alléluia. Nourrissons notre âme de la grâce du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, que son nom soit glorifié. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, pour ton esprit. Oui, tu n'as pas changé. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Cette grâce dont a été bénéficiaire en son temps Noé, Moïse, David, le peuple d'Israël, Marie et bien d'autres encore, nous en sommes bénéficiaires aujourd'hui, Seigneur. Et tu nous as fait connaître le véritable en la personne de ton Fils. Si nous avons trouvé grâce, Seigneur, c'est vraiment pas grâce à nous, mais grâce à toi. Pas grâce à nos mérites, mais grâce à tes mérites à toi sur la croix. Et nous te bénissons pour cela. Quoi qu'il arrive, Seigneur, nous voulons être dans cette foi, dans cette assurance que nous avons trouvé grâce. Et puisque nous avons trouvé grâce, tu approuves nos vies. Tu bénis nos cœurs et nos âmes et nos corps. Et nous sommes au bénéfice de ta vigilance, de ta protection. Nous voulons nourrir notre âme de cette grâce, Seigneur, tout comme l'apôtre Paul en son temps. Oui, nous voulons apprendre à nous suffire de ta grâce. Ô, que ton nom soit ainsi glorifié, bénis mes frères et sœurs. Ce matin, tu le connais les uns et les autres, leurs difficultés, leurs épreuves, peut-être leur angoisse. Mais Seigneur, ils sont au bénéfice de ta grâce. Nous savons que, Seigneur, nous avons trouvé grâce à tes yeux. Béni sois-tu, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen.